VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du vendredi 21 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la CAN avec Emmanuel Junta.
Au Mali, la mission de l'ONU MINUSMA annonce la reprise de ses vols suspendus depuis la semaine passée.
Au Burkina Faso, deux manifestations prévues demain, l'une en soutien au Mali, l'autre contre l'insécurité dans le pays, ont été interdites à Ouagadougou.
Au Ghana, au moins 17 morts et 59 blessés dans l'explosion d'un camion minier transportant des explosifs suite à une collision avec une moto.
En RDC, au moins 6,3 milliards de dollars entre 2011 et 2020. Telles seraient, selon un groupe d'experts, les pertes causées aux caisses de l'État par les exonérations douanières.
En Éthiopie, l'aide alimentaire est estimée plus basse que jamais au Tigré par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Le président américain Joe Biden précise que toute entrée de troupes russes en Ukraine serait une invasion et rencontre Blinken Lavrov aujourd'hui à Genève.
Ce sont là quelques-uns des titres de cette édition.
Désillusion hier pour le champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a été éliminée au stade de la phase des poules, battue lors de son dernier match par la Côte d'Ivoire, 1-3. Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont désormais connues. De Yaoundé pour le journal de la CAN, Emmanuel Juntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Le match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire avait tourné au profit des éléphants. Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Nicolas Pépé et Sébastien Heller ont participé au festival des buts de la Côte d'Ivoire qui hérite de l'Égypte comme adversaire lors des huitièmes de finale mercredi prochain. Patrice Baumel, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, livre les secrets de la victoire d'hier.
On a été efficace, on a été costaud dans les duels, on a été déterminé. Après, peut-être qu'on avait un petit peu moins de pression négative, puisqu'on était sûr de finir au moins dans les meilleurs troisièmes et de passer un second tour. Donc on a eu une approche positive du match.
L'élimination de l'Algérie vient mettre un terme à 3 années de suprématie sur le football africain. Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, reconnaît l'échec de son équipe durant cette CAN.
On a échoué. L'équipe est déçue, abattue, peut-être sûrement dans le doute. Perdre, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a fait sur 4 jours ce qu'on n'a pas fait sur 3 ans. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui me tue de l'intérieur.
L'histoire de la suprématie de l'Algérie sur le football africain a toujours été éphémère. C'est ce qu'explique depuis Libreville Jules-Valentin Ngoué dans le coup de sifflet du jour.
Bonjour. Le naufrage de l'Algérie n'est pas à proprement parler une surprise absolue. Que ce soit en consultant l'histoire, en observant les circonstances ou en analysant la pollution sportive sur le terrain. Tout d'abord, à l'image de la plupart des formations de l'Afrique du Nord, il a toujours été difficile de s'imposer au sud du Sahara. Seule l'Égypte a réussi à le faire chez ses voisins, Soudanais et Éthiopiens, en 1957 et 62, mais surtout au Burkina Faso en 92, au Ghana, puis en Angola, en 2008 et 2010, loin de ses terres. L'Algérie a toujours eu des prestations assez modestes. Alors faut-il accuser cette édition avec les conditions climatiques que l'on connaît quand on se rappelle que les seuls succès des Fenecs en 90 et en 2017 se sont déroulés au bord de la mer Méditerranée, loin de la canicule tropicale. Ne faut-il pas plutôt s'attarder sur la fragilité mentale de ces Brésiliens d'Afrique du Nord, peu à l'aise, loin d'un public acquis à leur cause? Sûrement. L'Algérie sort sans honneur. Et on se rappelle aussi qu'il lui a fallu 30 ans pour doubler la mise, là où le Ghana de 63-65, le Cameroun de 2000-2002 et l'Égypte de 2006, 2008 et 2010 ont su confirmer. Bref, le champion d'Afrique s'en va par la petite porte, alors que l'Afrique centrale fait le plein, avec la qualification de la Guinée équatoriale face à la Sierra Leone, nous ne sommes pas au bout de nos ambitions. À dimanche.
Hier, la Guinée équatoriale, héroïque face à la Sierra Leone, grâce à sa courte victoire d'un but à zéro, va défier les Aigles du Mali qui ont pris le dessus sur la Mauritanie, 2-0. Écoutons des réactions des supporters des Aigles du Mali.
Il n'y a rien d'extraordinaire et on attend le tour suivant. Sur combien de pays d'Afrique, il y a 24, ça veut dire que tu es déjà parmi les meilleurs. On ne peut pas te sous-estimer. Mais vu quand même le Mali, la Mauritanie, normalement, il y a pas, hein, on ne peut pas trop parler, mais il n'y a pas un match. Et on attend un peu plus d'eux. Hein, et surtout la vitalité dans les jeux. Souvent, on perd et même content de la façon de jouer. Comment on peut gagner et ne pas être content? La façon de gagner ne nous convainc pas jusqu'à présent. Donc ils peuvent mieux faire quoi. L'équipe malienne a toujours été moteur diesel. Ça vient petit à petit.
Le Mali qui gagne, mais on peut dire que le match n'a pas comblé les attentes du public en général. Les gens s'attendaient à ce que le Mali démontre un nouveau visage. Score fleuve, je ne dirais pas, mais au moins, on aurait dû avoir un autre visage du Mali plus convaincant.
Je suis très ravi. Si le Mali arrive à remporter la Coupe, c'est la meilleure des choses. Hein. Très, très convaincu.
Propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Vaincu dans le temps additionnel par la Gambie, 1-0, les Aigles de Carthage de la Tunisie passent néanmoins au second tour et tombent sur le Nigeria en 8e de finale, l'un des favoris du tournoi. C'est tout pour cette édition du Journal de la CAN. Siaka Traoré, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. À présent, les affiches complètes des 8e de finale, Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie. Ces disputes dimanche, Guinée, Gambie et Cameroun, Comores sont programmés pour lundi. Deux matchs se jouent mardi. Il s'agit de Sénégal, Cap-Vert et Maroc, Malawi. Mercredi, on assistera au choc Côte d'Ivoire, Égypte, suivi de Mali, Guinée équatoriale.
Dans le reste de l'actualité, la mission de l'ONU au Mali a annoncé hier la reprise de ses opérations aériennes suspendues depuis la semaine passée, à la suite, selon elle, d'une réorganisation par les autorités maliennes du processus d'approbation des vols au-dessus du territoire. Le premier vol devrait avoir lieu aujourd'hui. Précision de Nani Talani.
À la faveur d'une série de discussions fructueuses avec les autorités maliennes, la MINUSMA reprend ses opérations aériennes. L'ONU avait confirmé lundi que ses vols au Mali ont été suspendus depuis la fin de la semaine précédente, à l'exception des évacuations médicales. La situation a rendu difficile la liberté de mouvement aussi bien pour la MINUSMA que pour la France, engagée militairement au Sahel. Hier, un convoi de la force Barkhane en provenance de Gao pour Ménaka a été bloqué par des manifestants à Assongo, obligeant le convoi à rebrousser chemin. L'armée allemande a indiqué hier qu'un de ses avions à destination du Niger, avec environ 80 militaires à bord, s'est vu refuser de survoler le Mali. La ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, a invité vendredi dernier les compagnies aériennes qui desservent le Mali à confirmer la continuité de leurs services dans les 72 heures.
Au Burkina Faso, deux manifestations prévues samedi, l'une en soutien au Mali, l'autre contre l'insécurité dans ce pays, frappé par les violences djihadistes, ont été interdites jeudi par la mairie de Ouagadougou, où un précédent rassemblement interdit en novembre 2021 avait donné lieu à des violences. Le point avec Yacouba Ouidraogo.
La manifestation à l'appel du mouvement de la société civile Sauvons le Burkina a été interdite pour des raisons de sécurité, indique dans un courrier le secrétaire général de la mairie de Ouagadougou, Christian Charles Rouamba. Une autre manifestation en soutien au Mali, visée par des sanctions renforcées de la CEDEAO, a aussi été interdite pour des raisons de sécurité. Deux des responsables de la coalition des patriotes africains, section Burkina Faso, qui ont appelé à cette manifestation ont été placés en garde à vue hier, selon ce mouvement. Sauvons le Burkina a été à l'origine le 27 novembre dernier d'une manif pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à faire face aux attaques djihadistes. Ce rassemblement a été interdit et une dizaine de personnes ont été blessées dans des heurts avec les forces de l'ordre. Un dispositif sécuritaire est mis en place depuis hier à Ouagadougou et l'accès à Facebook est limité depuis plusieurs jours. Avant la manifestation de novembre, l'Internet mobile a été coupé pendant plusieurs jours.
Au moins 17 personnes sont mortes et 50 9 autres ont été blessés jeudi dans l'explosion qui a dévasté une partie d'une ville dans l'ouest du Ghana, provoquée par un accident impliquant un camion transportant du matériel explosif destiné à une mine.
La Centrafrique va organiser le 11 septembre ses premières élections municipales en 33 ans, a indiqué l'Autorité nationale des élections. Depuis 1988, les maires étaient désignés. Nathalie Barge.
Ce seront les premières élections municipales depuis 1988, a déclaré Théophile Momokwama, porte-parole de l'Autorité nationale des élections, précisant que le scrutin est fixé au dimanche 11 septembre. Pendant plus de trois décennies, l'autorité exécutive désignait des personnes au sein des communautés pouvant faire office de maire, a précisé M. Momokwama. Selon lui, le coût des élections municipales est estimé à 15 millions de dollars. Elles seront financées principalement par des bailleurs internationaux, dont l'Union européenne. Ces élections posent un défi sécuritaire alors que les attaques des groupes armés se poursuivent. Après l'offensive sur Bangui en décembre 2020, les habitants de plusieurs régions n'avaient pas pu voter. Le président Faustin Archange Touadéra a été réélu dès le premier tour sur un espace réduit à Bangui et ses environs, le reste du pays étant occupé par des groupes armés.
Les exonérations douanières, souvent injustifiées, ont causé une perte d'au moins 6,3 milliards de dollars aux caisses de l'État de la République démocratique du Congo entre 2011 et 2020. C'est ce qu'affirment des experts dans un rapport publié ce vendredi.
Les exonérations fiscales peuvent être un outil légitime pour promouvoir les investissements, mais en RDC, certaines d'entre elles ont été utilisées pour faire du favoritisme et obtenir des pots de vin, affirme le groupe d'études sur le Congo rattaché à l'Université de New York. Selon ce groupe, le secteur minier, considéré comme le moteur de l'économie congolaise, est le plus grand bénéficiaire de ces exonérations.
Le niveau des distributions d'aide alimentaire n'a jamais été aussi bas dans la région éthiopienne du Tigré, en proie depuis plus de 14 mois à la guerre, a affirmé Ocha. Selon l'agence humanitaire de l'ONU, les stocks de nourriture fortifiés pour enfants mal nourris sont épuisés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ocha a fait savoir que seulement 1338 camions ont atteint la région du Tigré depuis le 12 juillet, ce qui représente moins de 10% des livraisons requises pour répondre aux immenses besoins humanitaires de 5,2 millions de personnes. L'organisation onusienne souligne qu'aucun transport n'a été possible depuis le 14 décembre entre Semena, capitale de la région voisine de l'Afar, et Mekele, la capitale du Tigré. D'après le Programme alimentaire mondial, les stocks de nourriture fortifiés pour le traitement des enfants mal nourris et des femmes sont maintenant aussi épuisés. De plus, le carburant manque cruellement au Tigré et aucun approvisionnement n'a été autorisé depuis le 2 août, excepté pour deux camions du PAM selon Ocha. La communauté internationale espère désormais un accord entre les deux camps pour mettre fin aux combats qui ont fait des millions de déplacés et mené selon l'ONU des centaines de milliers de personnes au bord de la famine.
Le président américain Joe Biden a assuré jeudi que toute entrée de troupes russes sur le territoire ukrainien serait considérée comme une invasion. Mercredi, il avait suscité l'indignation de Kiev en évoquant la possibilité d'une incursion mineure de la Russie en Ukraine. Le point avec Jenny Kapumbu-Villa.
Disant avoir été absolument clair avec le président russe Vladimir Poutine, le président américain a déclaré « Si un groupe d'unités russes, quel qu'il soit, traverse la frontière de l'Ukraine, c'est une invasion ». Il a ajouté que cela va entraîner une réponse économique sévère et que la Russie le paiera très cher, s'adressant à la presse. Joe Biden a soulevé une vive controverse mercredi en évoquant la possibilité d'une incursion mineure de la Russie en Ukraine. Nous voulons rappeler aux grandes puissances qu'il n'y a pas d'incursion mineure et de petites nations, a répliqué jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Twitter. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie a déployé plus de 127 000 soldats dans la région. Moscou continue de nier toute intention d'envahir l'Ukraine. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe, Sergei Lavrov, à Genève.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Lors d'une longue conférence de presse qualifiée de « marathon », mercredi à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a défendu sa première année au pouvoir comme une année de défis, mais aussi de progrès considérables. Lors de sa campagne électorale, M. Biden avait promis d'éradiquer la pandémie de coronavirus. Nathalie Barge.
Joe Biden a vanté l'adoption d'une loi pour lutter contre le coronavirus à hauteur de 1,9 billion de dollars et d'un plan de 1 milliards de dollars pour les infrastructures du pays. Il a cité l'augmentation du nombre d'Américains vaccinés et la diminution du chômage. Mais son filet de sécurité sociale de 1,8 billion de dollars et sa proposition sur le changement climatique sont au point mort au Sénat en raison de l'opposition du sénateur modéré Joe Manchin qui détient un vote critique. Les journalistes ont demandé au président s'il n'avait pas trop fait de promesses.
Look, I didn't overpromise, but I have probably outperformed what anybody thought would happen.
Écoutez, je n'ai pas trop promis, mais je pense que si vous regardez ce que nous avons pu faire, vous devriez reconnaître que nous avons fait d'énormes progrès. L'une des choses importantes que je n'avais pas été capable de faire jusqu'à présent, c'est d'emmener mes amis républicains à participer au jeu pour améliorer les choses dans ce pays.
One thing I haven't been able to do so far is get my Republican friends to get in the game of making things better in this country.
Joe Biden a fait campagne pour mettre fin à la pandémie qui entre dans sa troisième année avec l'augmentation fulgurante de cas d'infection due au variant Omicron. Tom Hart, président de la campagne One, interviewé par Arash Arabasadi de La Voix de l'Amérique.
The president is really succeeding on the global response.
Le président réussit vraiment la réponse mondiale grâce à des engagements directs des États-Unis envers les pays dans le besoin en termes de doses, en termes de dollars et en termes de coopération.
L'épidémiologiste Eric Felding, chercheur principal à la Fédération des scientifiques américains, estime que l'administration Biden aurait pu faire plus pour lutter contre la désinformation et garantir l'amélioration des systèmes de ventilation dans les établissements publics.
Je pense que l'administration Biden dans l'ensemble a bien fait quand il s'y est mise, donc je pense qu'ils obtiennent un A moins ou un B plus. Cependant, le problème est que souvent, leurs politiques se sont trop appuyées sur une approche uniquement vaccinale.
Les sondages récents ont montré que davantage d'Américains désapprouvent la gestion de la pandémie par Joe Biden. Sa popularité a commencé à baisser depuis le retrait des forces américaines d'Afghanistan en septembre, la confusion sur les derniers protocoles de santé et la forte progression de l'inflation.
Si la Russie attaquait l'Ukraine, la situation pourrait échapper à tout contrôle. S'est inquiété mercredi le président américain Joe Biden. Son secrétaire d'État Antony Blinken, en visite à Berlin, a assuré que tout franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction rapide et sévère des États-Unis. Pour mieux comprendre cette crise, Claire Morin-Gibourg a joint la spécialiste de l'Ukraine et maître de conférence à l'Université de Bourgogne, Alexandra Goujon.
Symboliquement, la présence d'Anthony Blinken à Kiev avant la visite à Moscou est extrêmement importante parce que ça vient, on va dire, conforter la position américaine sur le fait, je cite, qu'on ne discutera pas d'Ukraine sans l'Ukraine. Donc il y a une volonté d'inclure l'Ukraine dans des pourparlers au départ que les Russes voulaient strictement russo-américains. Cette position n'est pas très étonnante puisqu'en fait, depuis le début du conflit en 2014, les Américains ont soutenu véritablement l'Ukraine, ils le rappellent régulièrement et le soutien militaire là qui vient d'être évoqué est une pierre de plus à un édifice qui est déjà bien présent puisque les Américains fournissent à l'Ukraine des armes défensives. Donc ça vient conforter la posture américaine sur la souveraineté ukrainienne.
Une rencontre est prévue vendredi entre Anthony Blinken et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Que va-t-il en sortir selon vous ?
Je pense qu'on va rester dans une relation relativement tendue puisque en fait la Russie qui a posé ses exigences dès le mois de décembre avec des propositions de traité, une volonté d'avoir des garanties écrites sur l'OTAN, les Américains et leurs alliés européens ont clairement signifié que c'était des engagements que les Occidentaux n'allaient pas immédiatement réaliser et surtout étaient en désaccord sur le fond, c'est-à-dire de limiter a priori l'élargissement de l'OTAN. Par contre, je pense que la grande difficulté dans ce dialogue, c'est qu'on a une affaire d'agenda qui est complètement différente. Les Russes veulent aller vite, ils l'ont dit, ça ne va pas prendre des années ni même des mois, on veut quelque chose de rapide. Or, j'ai le sentiment que les Américains, en fait, dans ce dialogue, essayent surtout de gagner du temps, en fait, c'est-à-dire de poursuivre le dialogue tout en restant, on va dire, sur une posture relativement ferme.
Le chef de la diplomatie ukrainienne s'est toutefois montré optimiste, hein, puisqu'il a dit espérer que les discussions de Genève déboucheront sur un comportement de la Russie moins agressif. Est-ce que vous sentez toujours cet optimisme du côté ukrainien ?
Alors, il faut savoir que dans toute cette crise, en fait, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que c'est vraiment les Américains qui sont sur le devant de la scène, c'est-à-dire qui alertent. Et je me suis demandé si ce n'était pas lié au fait qu'en 2014, justement, il y avait eu une espèce de surprise, une difficulté à réagir parce que la Crimée avait été annexée en 2 semaines et qu'il y avait le développement du séparatisme à l'est de l'Ukraine. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'anticipation, on se prépare au pire et on l'annonce. Et habituellement, ce sont plutôt les Ukrainiens qui alertent. Regardez ce que font les Russes. Et là, ils se retrouvent dans une position un petit peu différente parce que finalement, ce sont les Américains qui sont en position d'alerte. Il n'en reste pas moins que les Ukrainiens sont extrêmement inquiets.
Alexandra Goujon, enseignante à Sciences Po et auteure de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre en novembre 2021. Édition du Cavalier Bleu. La compagnie aérienne Emirates a annoncé hier la reprise temporaire des vols vers toutes ses destinations américaines après le report du déploiement de la 5G autour des aéroports américains. La compagnie aérienne de Dubaï avait annoncé mardi la suspension des vols vers 9 aéroports américains, mais le lendemain, les opérateurs de téléphonie mobile, AT&T et Verizon, ont finalement retardé l'installation de la nouvelle technologie d'Internet mobile ultra rapide afin d'éviter le potentiel chaos craint par le secteur. Sur ces craintes soulevées par les compagnies aériennes, Abdulrahman Dia a joint à Paris l'économiste du secteur des télécoms, Stéphane Dubreuil.
L'Europe a, dès 2017, travaillé sur cette problématique qui est que la 5G utilise une bande de fréquence particulière qui est ce qu'on appelle les ondes millimétriques, qui sont les ondes situées entre 26 et 29-30 GHz. Et en fait, on sait que cette tranche de fréquence est utilisée par l'armée, les satellites, les liaisons hertziennes. Donc on sait qu'elles sont encombrées par d'autres acteurs. Les États-Unis ont fait un choix différent sur les bandes de fréquence et il s'avère qu'ils partagent avec l'armée, c'était connu dès le départ. Sauf que là, en ce moment, il y a des craintes qui sont pour certaines justifiées, pour d'autres pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense que Boeing étant dans une très mauvaise passe, ayant des gros problèmes de fiabilité, la vague du coronavirus a mis à mal les compagnies aériennes. Et aujourd'hui, je pense que c'est un moyen pour dire, si on a des retards et si on a un surcoût, à cause de la 5G, ben, on demande des compensations.
Donc pour vous, les constructeurs, notamment Boeing, ils n'ont pas mis à jour leur technologie, c'est un peu ça?
Non, c'est pas qu'ils n'ont pas mis, c'est que je pense qu'il y a eu des tests aux États-Unis comme en Europe, tout le monde l'a fait, la France aussi, on a fait des tests autour des aéroports, etc. Donc on sait les impacts que ça peut avoir, ils sont très minimes, hein, faut être clair. Néanmoins, on n'utilise déjà pas tout à fait les mêmes bandes de fréquences en Europe et aux États-Unis, ça c'est important. L'enjeu militaire est un enjeu qui est prégnant hein, aux États-Unis. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs Donald Trump a boycotté Huawei et a réagi hein, à un moment. C'est qu'il y avait aussi la crainte qu'on avait des fréquences qui étaient très proches des fréquences militaires. Donc ça posait des inquiétudes. Aujourd'hui, on sait comment faire pour limiter ces risques-là.
Donc il y a des enjeux économiques plus que sécuritaires pour vous.
Je pense, pour moi, mon analyse, c'est que c'est plus un moyen d'un bras de fer entre Boeing, les compagnies et les opérateurs et l'État pour avoir des indemnisations et en fait, s'il y avait un problème, pouvoir s'exonérer de la responsabilité. Parce que vous avez quand même une compagnie aux États-Unis qui, je crois, de mémoire, a dit si il y a très mauvais temps qu'on ne peut pas utiliser l'altimètre et qu'il y a un accident, la responsabilité incombera aux opérateurs.
Stéphane Dubreuil, économiste du secteur des télécoms. Les fans nigérians du ballon rond encouragent les Super Eagles chez eux et au Cameroun, où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi eux, des centaines de réfugiés nigérians et de personnes déplacées à cause de Boko Haram le long de la frontière avec le Cameroun. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Eric Manirakidza.
Des fans nigérians entonnent l'hymne national de leur pays et encouragent leur équipe de football, les Super Eagles, dans le nord de la ville de Garoua. Garoua accueille des matchs pour les équipes d'Égypte, de Guinée-Bissau, du Nigeria et du Soudan. Selon la Confédération africaine de football CAF, des milliers de supporters nigérians sont venus à Garoua, mais des centaines d'entre eux n'ont pas eu à faire un long voyage. Mohamed Chiroma Faiza, nigériane de 19 ans, vit depuis 6 ans dans le camp de réfugiés de Minao au Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Elle a fui son village dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, après que des militants de Boko Haram ont attaqué leur école. S'exprimant à la télévision publique camerounaise, elle affirme que les autorités l'ont aidé ainsi que plus de 20 autres supporters de l'équipe de Nigeria à regarder les matchs à Garoua.
Je suis venu soutenir le Nigeria parce que c'est mon pays. Peu importe où je vais, je ne pourrai jamais oublier mon pays. Je ne pourrai jamais oublier le Nigeria. Je veux que les joueurs nigériens jouent très bien et gagnent ce tournoi.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'OACR, affirmait que 68 000 réfugiés nigériens se trouvent dans le camp de Minao, au Cameroun. Ils ont élu Isaac Luka, qui vit dans le camp depuis 2014, comme leur chef. Luka a également fui l'état de Borno en juin 2014, après que les terroristes de Boko Haram ont tué plus de 20 personnes dans son village, dont sa famille. S'exprimant depuis Garoua, il affirmait que le fait d'encourager l'équipe de football du Nigeria montre à quel point les réfugiés aiment leur pays et espèrent la paix pour pouvoir un jour rentrer chez eux.
Je considère le football comme un moyen de résoudre les problèmes. Si vous regardez le match entre le Soudan et le Nigeria, vous savez que le Nigeria est confronté à des problèmes de sécurité. Le Soudan est confronté à des problèmes de sécurité. Si les deux réfugiés soudanais et nigériens peuvent se réunir et regarder leurs joueurs sur le terrain, c'est quelque chose qui peut apporter l'unité parmi les réfugiés.
Selon Luka, les réfugiés ont encouragé l'équipe nigériane qui a remporté une victoire 1-0 contre l'Égypte la semaine dernière et une victoire de 3-1 contre le Soudan samedi. Le Nigeria a joué son troisième et dernier match de groupe contre la Guinée-Bissau mercredi. Les Super Eagles ont arraché la victoire de 2-0.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et John Linden. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.